Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral. C'est le moment d'accueillir nos invités du jour. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour la SKIC énergétique 04 François Petitpré, directeur accompagné de Janeya Jean-Joseph, stagiaire à énergétique 04. Bonjour à tous les deux et bienvenue.
Bonjour Tiffany.
Bonjour.
Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de Énergétique 04. On va voir ce qu'est une SKIC, en quoi consistent les projets d'Énergétique 04 et en quoi consiste l'actualité. François, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus?
Oui, alors Énergétique 04, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée en 2012. Par des citoyens de Digne. À l'origine, ils étaient 30. L'objectif de la coopérative, c'est de favoriser l'implication citoyenne dans la transition énergétique des Alpes-de-Haute-Provence. Et cet objectif un peu général, il se décline en plusieurs actions. Donc, nous, on travaille dans le domaine de la production d'énergie citoyenne. Donc, en fait, on développe et on exploite pour le moment des centrales photovoltaïques qui sont donc financées par des citoyens, un peu par tout le monde. On travaille également dans la maîtrise de l'énergie, donc on déploie plusieurs actions pour faciliter la réalisation d'économies d'énergie. Donc ça peut être de l'assistance à la rénovation et des conseils pour les particuliers. Pour les collectivités, les entreprises, on fait quelques missions d'ingénierie, de conseil. Et on a également tout un volet de lutte contre la précarité énergétique avec plusieurs dispositifs qui sont déployés par notre équipe depuis plusieurs années maintenant. Et on travaille en partenariat avec les collectivités territoriales et plusieurs institutions pour apporter une réponse à ce phénomène assez important sur les Alpes-de-Haute-Provence qui est la précarité énergétique.
En parlant de précarité énergétique, récemment, le jeudi 26 mars, un événement un peu particulier était organisé. C'était le Forum Précarité énergétique et transition citoyenne. Peut-être quelques mots sur cet événement, qui était présent et quel était l'objectif?
Alors effectivement, cet événement qui a eu lieu à l'hôtel du département le 26 mars après-midi, l'objectif de l'événement, c'était de partager un petit peu ce qui se passe dans les Alpes-de-Haute-Provence autour de la lutte contre la précarité énergétique, parce qu'en fait, il y a énormément de structures qui travaillent en partenariat autour de ce phénomène-là. Et donc l'idée, c'était un petit peu de mettre en lumière les dynamiques qu'il y a entre les différents partenaires. Donc on a été accueillis par le conseil départemental qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition une salle et des moyens logistiques importants parce que bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un forum aussi qui était transfrontalier puisqu'on avait invité certains de nos voisins italiens à participer à ce forum. Et donc parmi les acteurs, on avait nos principaux partenaires financiers, donc les structures en fait qui nous permettent de déployer nos actions de lutte contre la précarité énergétique, donc parmi lesquelles on avait le conseil départemental, la caisse d'allocation familiale et la direction départementale des territoires. On avait également des partenaires plus opérationnels, je pense notamment au centre communal d'action sociale de Digne-les-Bains. Et on avait également l'ADIL 0405 qui était là. Donc l'ADIL, c'est une association qui apporte, sa mission principale, c'est d'apporter des conseils en droit du logement. Voilà, donc pas mal de gens autour de la table. Au cours de ce forum, on a eu un premier temps d'échange, en fait, où on a organisé une table ronde avec l'ensemble des acteurs. Et donc l'idée de cette table ronde, c'était d'expliquer un petit peu comment toutes ces différentes structures travaillent ensemble et en quoi c'est important, en fait, d'avoir toutes ces structures autour de la table qui ont toutes des compétences un petit peu différentes, qui ont toutes des réseaux un petit peu différents et donc mettre en lumière tout le travail de coordination qu'il y a derrière entre ces structures pour permettre en fait aux usagers, aux personnes qui sont en situation de précarité, d'avoir un parcours aussi clair que possible et justement ça, être en mesure de se repérer dans toute cette complexité des démarches. Et le deuxième temps de l'après-midi, il a été consacré à des ateliers participatifs. Donc là, c'était vraiment un temps où tout le monde était invité à s'exprimer. Et donc parmi ces ateliers, on a exploré plusieurs thématiques. On avait notamment le repérage des personnes en situation de précarité dans leur logement. Voilà, comment est-ce qu'on organise ce repérage? Comment est-ce qu'on diffuse l'information? Comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens que c'est pas une fatalité aussi et qu'en fait il y a des choses à faire, hein, et donc il faut pas rester tout seul dans son coin, et faut pas hésiter à demander de l'aide et à solliciter les acteurs qui peuvent apporter de l'aide justement dans ce type de situation. On avait un deuxième atelier qui, lui, était consacré vraiment à la question des propriétaires occupants en situation de précarité. Des situations qui sont un petit peu particulières parce que les propriétaires occupants, souvent, c'est des gens qui se disent bah, ils n'ont pas le droit à des aides particulières. Ils ont un peu tendance à rester dans leur situation sans demander de l'aide. Et donc, il y a un vrai enjeu à comment on fait pour détecter ces personnes-là et aussi comment on fait pour les accompagner. Parce que mine de rien, c'est pas si simple que ça d'organiser des travaux de rénovation, surtout chez des personnes qui n'ont pas trop de moyens. Et le dernier atelier, il était consacré à un approfondissement de cette thématique de la synergie entre les acteurs. Comment les différents acteurs autour du logement ils peuvent travailler en bonne intelligence et de manière efficace. Voilà. Et pour terminer sur ce forum de la précarité énergétique aussi, rappeler que ce forum, en fait, il est organisé dans le cadre d'un projet européen, donc qui bénéficie du soutien de la Commission européenne à travers le programme Interreg. Et c'est notamment pour ça qu'on avait aussi la présence de nos amis italiens. En fait, il fait partie d'un projet qui se développe sur le territoire Alcotrace et le territoire en fait des Alpes, des deux côtés de la frontière. Donc il va des Alpes du Nord jusque dans les Alpes-Maritimes et avec les territoires équivalents de l'autre côté de la frontière franco-italienne.
C'était une première, ce forum précarité énergétique ?
De cette ampleur-là, oui, c'était vraiment une première. Je crois qu'on a reçu entre 40 et 50 personnes, si ma mémoire est bonne. Donc c'était quand même un peu une nouveauté, ouais.
Et on peut peut-être souligner aussi le volet culturel avec des séances de cinéma le soir en partenariat avec les rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains aussi pour clôturer la journée.
Oui, complètement. Alors c'est vrai que ce volet culturel, c'est une partie intégrante de ce projet européen. Donc je pense qu'on aura aussi l'occasion de l'étayer un petit peu après. Mais donc c'est dans ce volet culturel, on a effectivement du cinéma avec des courts-métrages qui sont tournés et qui ont effectivement été projetés jeudi soir au Centre culturel René Char, et j'en profite pour remercier aussi toute l'organisation des rencontres cinématographiques, puisque cette projection cinéma, elle a été organisée dans le cadre de ces rencontres cinématographiques, et donc c'était quand même assez intéressant pour nous de pouvoir bénéficier du Centre culturel René Char et d'avoir un appui au niveau de la communication. Donc ce partenariat, il était vraiment assez génial. Et aussi, on a des enregistrements audio qui sont faits un petit peu tout au long du projet. Et l'idée de ce volet culturel, c'est vraiment de communiquer sur le travail qu'on fait au sein de ce projet, de le rendre accessible à un public plus large.
Alors effectivement, on va revenir un peu plus tard sur ce volet culturel, mais peut-être qu'on peut en profiter, puisqu'on parlait d'un événement assez récent, pour développer sur votre actualité. Quel projet maintenant, sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment ?
Alors, en ce moment, sur le feu, on a pas mal de projets assez concrets. C'est toujours un petit peu dans le cadre de ce fameux projet européen. Mais donc dans les mois qui viennent, on va travailler sur deux projets de production d'énergie participative. Et on va également développer deux projets de maîtrise de l'énergie avec, pareil, l'optique d'impliquer le plus grand nombre possible de personnes. Donc j'ai commencé par les projets de production d'énergie. On a l'ambition de préparer, dans les deux années qui viennent, un projet de production de chaleur renouvelable avec un financement participatif et autant que possible un projet dont la gouvernance soit assurée par ses bénéficiaires, en fait, hein, qu'ils soient producteurs ou consommateurs de la chaleur qui sera produite par le projet. Et on a également un deuxième projet de production dans les tuyaux. C'est un projet d'autoconsommation photovoltaïque collective. Ici, le principe, c'est qu'on va donc produire de l'énergie, produire de l'électricité avec une centrale photovoltaïque, et cette électricité, elle sera consommée directement par des parties prenantes du projet. Donc ça peut être des consommateurs particuliers, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités, mais elle sera consommée en tout cas en direct. Voilà. Voilà pour les projets de production sur lesquels on travaille en ce moment. On a également, donc, comme je vous disais, deux projets de maîtrise de l'énergie. Donc le premier projet, c'est un projet de lutte contre la précarité énergétique. On réalise des diagnostics chez les personnes en situation de précarité et on définit avec eux un plan d'action en essayant d'associer toutes les structures un petit peu compétentes sur le sujet. On peut aussi faire appel à des équipes bénévoles qui seraient autour de ces familles pour participer à des travaux de rénovation et l'idée étant de soulager un petit peu ces personnes en situation de précarité énergétique. Et le deuxième projet sur lequel on est en train de travailler, c'est l'organisation d'un défi déclic économie d'énergie. Mais là, je vais laisser la parole à Janeya, puisque c'est elle qui est en charge dans l'équipe de préparer ce projet. Et donc, elle va vous expliquer ce que c'est.
Alors oui, Énergétique 04 se lance dans une nouvelle aventure avec les défis déclic. Donc en fait, défis déclic, c'est des défis citoyens locaux d'implication pour le climat. Nous, on a décidé de s'axer sur un défi d'économie d'énergie. Donc l'objectif, ça va être d'impliquer des citoyens et sous forme un peu de concours et sous diverses formes ludiques, de leur transmettre des pratiques éco-responsables pour les aider à réduire du coup leur consommation d'énergie. L'objectif national, il est fixé à une réduction de 8% de leur consommation. Nous, on a pour objectif de lancer ce défi en décembre, donc sur la période hivernale, pour permettre aux familles, aux foyers qui vont participer de réduire leurs factures. Puisque du coup, on constate que quand on réduit un petit peu notre consommation de 8%, on peut faire des économies d'environ 200 euros. Donc ça aussi, un avantage économique, pas que environnemental et écologique. Nous, pour l'instant, on imagine ça avec, du coup, sur une période de 4 mois et demi qui va être dynamisée et rythmée par plusieurs ateliers, de la sensibilisation et sur une dynamique très collective afin de créer des liens entre les diverses familles. Donc, je vous parle de famille, de foyer, un petit peu, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce défi déclic, il se présente un peu sous une forme de concours où on va créer des équipes en fonction de foyers, où ils vont se réunir sous le nom d'une équipe. Et après, ils vont être en compétition pour faire le plus d'économies possible. Voilà, ça va se passer sur le territoire du 04. Et on a pour ambition, du coup, de le lancer les inscriptions en septembre. Il y a la plateforme défidéclic.org qui recensera plus tard notre défi. Et voilà.
Et est-ce qu'on peut en profiter, Janeya, puisque tu es en stage à Énergétique 04, pour que tu nous parles un petit peu de la durée de ce stage et toi du rôle en particulier que tu joues, par exemple, pour le défi déclic ?
Oui, avec plaisir. Alors, moi, je suis étudiante, du coup, en BUT GACO, gestion administrative et commerciale des organisations à Digne-les-Bains. Je dois réaliser du coup un stage pour valider ma troisième année et c'est du coup dans ce contexte-ci que j'ai candidaté auprès de Énergétique 04 qui me proposait à moi d'organiser, de concevoir du coup ce défi déclic, mais aussi de le créer de manière pérenne pour que la documentation et la trame, on va dire, un petit peu pour arriver à la finalité, soit réutilisable et qu'on puisse la partager pour faciliter la mise en place d'un tel défi par d'autres personnes, par d'autres collectivités, d'autres organisations. Et du coup, j'ai commencé il n'y a pas très 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 longtemps et je suis en stage jusqu'au 19 juin, donc c'est un stage d'à peu près 3 mois.
Et ça se passe bien.
Oui, ça se passe super bien. Je suis bien accueillie. Je suis dans une équipe qui m'est à l'aise, qui a la joie de vivre. Donc, c'est très agréable de travailler avec l'équipe d'Énergétique 04.
Oui, c'est vrai qu'on a parlé de la structure, mais peut-être, François Petitpré, si vous voulez rappeler le fonctionnement, le nombre de salariés d'Énergétique 04, pour qu'on se représente un peu.
Alors, Énergétique 04, aujourd'hui, on est 201 sociétaires. 201 sociétaires qui sont en fait principalement des personnes physiques. On a aussi quelques entreprises, quelques associations et quelques collectivités qui ont des parts dans la coopérative. Et on a une équipe salariée dans laquelle on a 7 postes à temps plein. Donc pour compléter le tableau, la gouvernance, elle est assurée par un conseil coopératif, qui est un conseil d'administration, mais nous on appelle ça le conseil coopératif, qui se réunit une fois toutes les 6 semaines, qui est composé de 6 membres bénévoles et qui définit la stratégie de la coopérative.
Alors, on a parlé des projets en cours, du forum précarité énergétique et transition citoyenne, également du projet Moderati. On a précisé qu'il s'inscrivait dans un contexte européen. Est-ce que vous voulez développer un peu plus sur cet aspect-là ?
Oui, alors le projet Moderati, c'est un projet qui a... Enfin, ça fait déjà un petit moment qu'on y travaille, puisque le projet, il a été imaginé à la fin de l'année 2024. Il a démarré en septembre 2025. Alors c'est un projet qui est assez ambitieux, parce qu'en fait c'est un projet qui associe 7 partenaires des deux côtés de la frontière, qui s'étale donc de septembre 2025 jusqu'à décembre 2027. Donc c'est quand même un projet qui s'inscrit dans le temps long. Et l'idée de ce projet, c'était de réussir à prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur et vraiment avoir un travail structurant pour nos organisations citoyennes. Alors l'objectif du projet, tel qu'il a été défini, alors attention, il faut s'accrocher un petit peu là, c'est structurer un réseau d'opérateurs énergétiques territoriaux citoyens à l'échelle du territoire Alcotra. Alors, maintenant qu'on a dit ça, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que ça veut dire. Alors, le territoire Alcotra, déjà pour commencer, c'est le territoire sur lequel s'inscrit le projet. Et en fait, il s'agit du territoire alpin des deux côtés de la frontière France-Italie. Alors, nous, on intervient sur un territoire un petit peu plus restreint, puisque du côté français, on a le département des Alpes-de-Haute-Provence et le département des Hautes-Alpes. Et côté italien, on intervient sur la province de Torino et la province de Cuneo. Le projet, donc, comme je vous disais, il s'articule autour d'opérateurs énergétiques territoriaux citoyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de truc ? Un opérateur énergétique territorial citoyen, c'est une organisation qui intervient dans le domaine de l'énergie, qui est ancrée dans son territoire et qui a un mode de gouvernance citoyen. Donc par exemple, Énergétique 04, pardon, en tant que coopérative, c'est un opérateur énergétique territorial citoyen. Parmi les autres partenaires du projet, on a la communauté de communes de Serre-Ponçon, qui est donc sur le département des Hautes-Alpes. On a un organisme qui s'appelle Conf Cooperative Piemonte Nord, qui est à Turin, qui est en fait une fédération de coopératives sur le territoire du Piémont Nord. Et on a également le CFEP de Chemon, qui est un centre de formation professionnelle qui est basé à Mondovì, juste à côté de Cuneo. Donc on a ici 4 partenaires qui sont fortement ancrés dans leur territoire. Et à côté de ces partenaires territoriaux, on a également Énergie Partagée, qui est partie prenante du projet en tant que chef de file, avec 2 entités, Énergie Partagée Association et Énergie Partagée Coopérative. Et enfin, le 7e partenaire, puisqu'il y en a 7, c'est l'association La Miroiterie, qui est une association qui travaille dans le milieu du cinéma et qui est notamment en charge de l'organisation du festival numéro 0.
Un festival qui a lieu à Fort-Calquier tous les ans et qui aura lieu au mois d'avril-mai, si je me trompe.
Oui, c'est ça, il me semble bien, fin avril, début mai. Ouais.
Est-ce que vous voulez aussi préciser un petit peu le contexte de départ du projet Moderati, puisque la zone sud-alpine subit un réchauffement climatique accéléré, ça contribue au développement de tous ces aspects ?
Oui, complètement. Alors, l'idée de faire ce projet-là au niveau du territoire alpin, c'est effectivement parce que le territoire alpin, c'est un territoire qui est particulièrement concerné par le changement climatique. C'est aussi un territoire qui a une logique, quoi. Il y a des similitudes des deux côtés de la frontière. Pour reparler, par exemple, un petit peu de précarité énergétique, nous, on est sur un territoire qui a une très faible densité de population, un niveau de ressources général qui est quand même plutôt bas par rapport à la moyenne nationale, mais c'est le cas aussi dans les Hautes-Alpes, c'est le cas aussi dans le Piémont, c'est le cas aussi dans la province de Cuneo. On est sur des territoires de montagne avec des températures qui sont assez basses en hiver. On a assez peu d'accès au gaz naturel. Les gens, ils ont besoin de beaucoup d'énergie parce qu'il fait froid en hiver. Ils ont aussi besoin de beaucoup se déplacer. Donc voilà, on est sur des territoires qui ont des caractéristiques un petit peu similaires. Et donc l'idée de ce projet-là, c'est vraiment de structurer un réseau, de pouvoir développer une culture de travail commune entre nos structures, de pouvoir mutualiser un certain nombre de compétences, un certain nombre d'outils, dans l'idée de développer des réponses appropriées à nos territoires et qui dépendent aussi d'acteurs locaux.
Oui, on a parlé des acteurs locaux, de projets citoyens. Quel est l'intérêt finalement d'avoir des projets citoyens plus particulièrement ?
Alors le gros intérêt d'avoir des projets citoyens, c'est un petit peu le cheval de bataille d'Énergétique 04 depuis ses débuts, hein, comme je vous le disais en début d'entretien. L'objectif d'Énergétique 04, c'est l'implication citoyenne dans la transition énergétique. Nous, on défend vraiment l'idée que les questions d'énergie, c'est des sujets qui concernent tout le monde. C'est pas des questions d'experts. L'énergie, ça fait partie des besoins fondamentaux, et donc les décisions qui sont prises collectivement sur l'organisation de notre système énergétique, elles devraient prendre en compte la vie de tout le monde. Il faut que ce soit des questions qui soient traitées de manière démocratique. Donc l'intérêt de développer des projets de production d'énergie ou de maîtrise de l'énergie qui soient portés par des citoyens et accessibles au plus grand nombre, ça poursuit cet objectif-là. Et ça permet notamment de garantir que les bénéfices des projets de production d'énergie, ils restent localisés sur le territoire. C'est pas des bénéfices qui vont partir à Paris, puis dans les paradis fiscaux. Non, c'est des bénéfices qui restent au service de l'économie locale. Ça permet de mobiliser l'épargne locale des personnes. Ça permet également aux citoyens du territoire de s'impliquer dans les projets, de prendre part à la gouvernance et donc de prendre les décisions aussi sur comment est-ce que nous, on organise notre système énergétique. Ça permet également de faire en sorte que les gens, au lieu de se sentir exclus de ces questions d'énergie parce que on considère que c'est des questions qui demandent une expertise technique, ils vont s'acculturer, ils vont apprendre petit à petit en faisant. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive aussi à collectivement se saisir de cette question de l'énergie et collectivement progresser de manière à ce que notre territoire devienne plus résilient sur ces questions énergétiques.
D'où, par exemple, l'approche innovante avec un partenaire culturel pour mettre en avant l'acceptation des projets énergétiques par les populations locales et donc l'appropriation de ces projets. À ce sujet, pendant le forum de précarité énergétique du 26 mars 2026, on a pu entendre un podcast, un audio de la miroiterie. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits éléments de cette production audio sur son contenu ?
Oui, alors c'est un podcast qui avait effectivement été réalisé par la miroiterie. Alors pas directement sur le projet Moderati, c'était un autre projet qui était aussi sur le territoire Alcotra et qui s'inscrit dans le cadre du programme Interreg. C'était donc le projet Ithaca. C'était un petit peu un projet préparatoire à Moderati en quelque sorte. L'idée de ce projet, c'était d'organiser des voyages d'études des deux côtés de la frontière pour apprendre à se connaître, en fait. Voilà, c'était vraiment ça. Et le podcast, c'est un podcast qui a été enregistré à l'occasion d'une visite organisée dans les locaux d'Énergétique 04, justement sur la question de la précarité énergétique. Et je trouve que ce podcast, il est assez sympa parce que ça retranscrit bien l'ambiance de travail qu'on a, que ce soit pendant le projet Ithaca, le projet Moderati, avec les enjeux de traduction, l'ambiance de travail qui est quand même assez, assez plaisante, avec tout le monde dans le projet est content de se découvrir les uns les autres et de découvrir des cultures de travail qui sont différentes, quoi.
Oui, et sur le plan culturel, on peut peut-être aussi préciser, parce que ça a son importance, que donc la partie table ronde était traduite, il y avait un stand pour permettre à toutes les personnes qui étaient présentes de suivre l'intégralité de la table ronde. Ça aussi, ça devait être une première et une organisation particulière.
Grosse première, effectivement. Alors encore un énorme merci au conseil départemental pour avoir mis en place les moyens logistiques nécessaires. Mais oui, effectivement, pour cet après-midi-là, on avait donc deux interprètes, Milena et Farah, qui ont fait de la traduction simultanée avec donc toute une infrastructure, puisque donc elles écoutaient les échanges en français directement dans les écouteurs, et elles traduisaient en italien en direct dans un micro qui était retransmis. Donc la traduction était retransmise en direct à nos amis italiens qui étaient dans la salle. Et il faut savoir que c'est quand même un métier, hein, je veux dire, la traduction simultanée, et c'est bien pour ça qu'elles étaient deux, c'est qu'en fait l'effort de concentration est tellement intense qu'elles doivent tourner tous les quarts d'heure. Et voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'était une grande première d'organiser cette traduction simultanée pour un forum. Et ouais, on a réfléchi un petit peu à l'interface technique qu'il a fallu mettre en place. Ouais.
On mettra en ligne sur Fréquence Mistral un article dédié à ce forum si vous voulez en savoir plus ou vous replonger dans l'ambiance de ce jeudi 26 mars. Est-ce que vous voulez justement en profiter pour donner quelques contacts, coordonnées si on veut en savoir plus sur Énergétique 04, les projets en cours, s'impliquer d'une façon ou d'une autre ?
La manière la plus simple de se renseigner sur les activités d'Énergétique 04, c'est le site web, hein, donc www.ener04.com. Alors c'est écrit ENER04.com. On peut aussi nous contacter par mail, contact@ener04.com. Sinon, il y a un formulaire de contact sur le site web aussi. Possible aussi de nous appeler par téléphone. Alors, c'est un petit peu plus. On n'est pas forcément hyper réactif sur le téléphone parce que ça prend quand même pas mal de temps. Mais bon, je veux dire, vous pouvez toujours laisser un message, il ne faut pas hésiter. Donc, le numéro, c'est le 04 86 49 18 95. Et donc, réseaux sociaux, effectivement. Sur Facebook, on nous retrouve. Sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà.
Merci beaucoup. Janeya, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ?
N'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire au défi des clics ou vous voulez en savoir plus, nous posterons prochainement une annonce sur des clics. Enfin, ce n'est pas une annonce véritablement, mais je vous conseille d'aller voir sur le site défi-desclics.org.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Janeya, Jean-Joseph, stagiaire à Énergétique 04, et François Petitpré, directeur d'Énergétique 04. On ne l'a pas précisé. Énergétique, je vais quand même le dire puisque ça a sa petite importance. Éthique s'écrit ETHIQUE. Voilà, pour qu'on souligne la dimension éthique du projet. Ça a son importance. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne. Et bonne journée.
Merci.
Merci.
Notizia speciale, cominciata la più grande caccia al tesoro della storia. In palio un fantastico premio, il futuro.
Senza futuro, futuro nel buio. Per fortuna c'è l'alba ancora viva che accarezza le nostre facce di giorno sbiancate dal fumo. Come tutti c'è l'ansia e scappa da sta sigaretta. Ti aspetto ancora un po', ma non ti trattenere, che soldi non ne ho. Però ti voglio bene, però ti voglio. Viva la noia, che ci fa pensare ancora. Spero intanto il tempo vola, ma avrò fatto abbastanza prima che io muoia. Chi si distrugge di fame e di gloria, vede chi si accontenta come chi ha paura di spingersi più in là. Corriamo senza futuro, ti ho preso, ti giuro. Poi mi chiedo che cosa serve a tutta questa fretta. Che non importa nessuno, 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 nessuno. Come la guerra fredda tra sinistra e destra. Ti aspetto ancora un po', ma non ti trattenere. Che soldi non ne ho. Tutto davanti ad un bivio. Stammi vicino, sempre di corsa, ma non c'è l'arrivo. Intanto io rido, anche se non mi ferma nessuno. È bello anche senza futuro. Corriamo senza futuro.